France Musique.
Moi, je suis ici. Écoutez. Et bougez pas.
Allô, monsieur Isaac Stern. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil. Réalisation Christine Amado.
Bonjour à vous. La semaine dernière, nous avons vu comment Isaac Stern a sauvé Carnegie Hall. Cela lui a fait prendre conscience du pouvoir politique dont il dispose. Le pouvoir est le mot-clé de cette émission. Que faire de ce pouvoir d'agir? Et plus intimement, quel est le pouvoir de la musique? À la fin des années 60, il donne entre 8 et 9 concerts par mois, seul ou en trio. « Je ne pourrai jamais tout jouer ni tout faire », se plaint-il. Carnegie Hall l'occupe puisqu'il en est le président. De l'avis du conseil d'administration, Isaac est peut-être un peu rêveur. Il apporte des projets à foison pour que la salle soit dédiée à la jeunesse. Le directeur de Carnegie Hall doit réfréner son enthousiasme. Le violoniste arrive souvent avec des idées peu pratiques qui ne se traduisent pas en dollars et en cents, bien qu'elle soit musicalement valable et ancrée dans l'amélioration de la musique. Alors que son rôle n'est que de discuter de l'orientation générale de la salle, ses amis musiciens le harcèlent de questions qui le dépassent. Par exemple, le chef d'orchestre Ormandy le somme de régler un problème de climatisation, sinon il ne jouera plus jamais à Carnegie Hall. Effectivement, certains le voient comme le big chief qui s'occupe de tout. Du coup, cela crée une controverse. Conflit d'intérêts, s'écrient certains. Il utilise cette salle de concert pour lui et ses protégés comme s'il s'agissait de son propre salon. Pourtant, les deux directeurs de Carnegie Hall qui se succèdent, Julius Blum et Stewart Warkoff, sont formels. L'influence d'Isaac sur la programmation a été nulle.
Depuis 1960, quand j'ai devenu président, je n'interviens jamais
dans
le choix des artistes, les programmations. Nous avons un directeur artistique qui s'occupe de ça. Et moi, je ne sais rien de qui sera choisi. On discute les idées, le thème, disons, d'une saison. Ça dépend de l'année, si c'est un anniversaire.
Mais en tout cas, pas de censure.
Mais pas de censure, voilà. Jamais. Oui. Et surtout, pas poussé non plus. Parce que j'ai beaucoup des amis, très, très bons amis, les meilleurs amis à moi dans la musique, qui ont joué très rarement à Carnegie Hall. D'autre part, il y a des gens qui viennent très souvent que je ne connais pas du tout.
Oui, d'accord.
Alors, je n'ai rien à faire avec tout ça. Et je ne voudrais pas, parce que ce sera trop pénible. Et certainement, moi, comme artiste, je ne peux pas juger mes collègues.
Mais il est indéniable qu'Isaac Stern s'implique de plus en plus en politique. Il soutient qu'il devrait y avoir un ministère de la culture aux États-Unis. À partir de 1965, il participe à la création du Conseil national des arts, une agence fédérale dédiée à l'aide de toutes les institutions artistiques. En sa qualité de président de Carnegie Hall, il est aussi conseiller de la puissante agence de gestion des artistes ICM. Ces mêmes années, il devient président de la fondation culturelle Amérique-Israël, dont le but est de subvenir aux besoins financiers des institutions culturelles en Israël, y compris l'orchestre philharmonique et les jeunes musiciens. La fondation organise des collectes de fonds et offre des bourses aux étudiants. Vera, la femme d'Isaac, nommée vice-présidente, excelle dans ce travail. Mais tous deux agissent aussi en privé. Ils ont aidé Isaac Perlman, Pinchas Zuckerman, Shlomo Mintz et le pianiste Yefim Bronfman à venir étudier aux États-Unis. Ceux-là sont connus, mais il y en a d'autres pour lesquels le couple se démène afin de les loger chez des amis, voire chez eux. Ils prennent leurs frais médicaux en charge, leur prêtent des instruments. En dehors de toute institution et très discrètement, il arrive à Isaac de donner un concert pour recueillir des fonds afin de construire une école à Harlem. Isaac Stern est l'intime des présidents américains. Il peut appeler qui il veut, d'Henry Kissinger à Joe DiMaggio, d'Arthur Miller à Marc Chagall, et bien sûr, tous les musiciens du monde, je dis bien absolument tous.
On dit les musiciens, les artistes doivent pas se mélanger dans la politique. Je suis d'accord. Mais pourquoi la politique entre dans notre vie? Mais on est influencé toute la journée, toute l'année, avec n'importe quoi qu'on veut faire, on est influencé par les politiques, par la vie sociale, la vie entre les pays, n'est-ce pas? Alors si ça arrive, on doit être au courant un tout petit peu. Pourquoi c'était arrivé comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire?
Inévitablement, cette capacité à créer des opportunités provoque de l'amertume chez ceux qui n'ont pas pu rejoindre son cercle. Des noms d'oiseaux commencent à circuler dans les cocktails. Control freak, voire parrain de la mafia juive, je cite évidemment. Quelques musiciens comme Aaron Rosand l'accusent même d'avoir saboté leur carrière. Oui, c'est vrai, Isaac a la possibilité de promouvoir ceux en qui il croit. Non, il n'a pas le pouvoir de mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit. On peut l'imaginer chez lui, sur Central Park West. Il fume son cigare assis à son bureau devant une pile de courriers en attente. Les téléphones ne cessent de sonner. Allô, monsieur Stern, le sénateur Yavitz est en ligne 2. Des partitions partout, entassées sur le piano. Le placard à température contrôlée qui contient ses inestimables violons et archets. Sol Horrock, son si cher et fameux agent, se plaint. Stern est un homme qui ne peut pas se reposer. Je l'ai supplié de ne pas jouer autant. Je lui dis, moins vous jouez, plus vous jouerez. Cela ne sert à rien. Lorsqu'il ne joue pas du violon, il est au téléphone. Je voudrais abolir le téléphone. Cela ajouterait 10 ans à sa vie. Vera, sa femme, intervient autant qu'elle le peut. Il est plus facile pour moi de dire non à sa place. Les gens savent que si ma nature est fondamentalement de bon cœur, si je dis non, c'est pour de bonnes raisons. Tant de gens veulent tellement de lui. Ils oublient qu'il est un artiste. Vera et Sol Horrock ont raison. En janvier 67, Isaac fait une crise cardiaque. Il en sort ébranlé, mais pas calmé pour autant.
Les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie.
Juillet 67, c'est la guerre des 6 jours. À ce moment, Istomin, Rose et Stern s'apprêtent à enregistrer le trio de Ravel. Mais ils n'ont pas l'esprit à la musique. Plutôt que de vraiment travailler, ils passent leur temps devant la télévision. Finalement, ils renoncent et Isaac décide de partir en Israël 3 semaines après la guerre pour y rejoindre Leonard Bernstein. En arrivant, il est effaré. À Jérusalem, dans les petites rues étroites de la vieille ville, j'ai vu comment vivaient les gens et j'ai compris que les Israéliens étaient confrontés à un problème d'une complexité effrayante. Et je me suis demandé comment ils réussiraient à trouver un moyen de coexister avec les Palestiniens.
Dem davenen will ich mich schocklen machen allerlei Hawaiis. Machen allerlei Hawaiis. Machen allerlei Hawaiis.
Hormis ça, c'était très beau.
Isaac Stern et Leonard Bernstein se penchent sur la partition.
Y a-t-il quelque chose qui ressemble à une lettre là?
What is G, Haftel? Play me G.
Un sol, qu'est-ce que c'est un sol? Joue-moi un sol.
That's very beautiful.
C'est très beau, ok, sol.
Isaac se rend sur un champ de bataille, puis à un kibbutz. Il va jouer dans les hôpitaux. Arrive le jour du concert. Bernstein fait un discours.
I am especially moved that this restatement of faith. Je suis particulièrement ému que cette affirmation de foi se tienne sur cette montagne de Jérusalem. Une ville qui en ce jour est unifiée et en paix.
Isaac et Lenny sont habillés de blanc. Le soleil est écrasant. Un vent fort du désert souffle sans interruption, envoyant de la poussière dans les yeux de tous et dans le violon d'Isaac, entre ses doigts aussi. Les partitions tiennent avec des pinces à linge, les pupitres tombent. Dans le public, beaucoup de blessés avec des bandages, certains en fauteuil roulant. Au loin, on entend sauter des mines.
Thank you.
Le sionisme d'Isaac Stern et de Leonard Bernstein est bien compréhensible après-guerre, mais ils partagent aussi la même foi en la musique. C'est leur seule arme. En partant après ce fameux concert, tous deux sont terriblement inquiets pour l'avenir d'Israël. Mais de toute façon, à la fin des années 60, faire de la musique est devenu politique. Ces années-là sont agitées dans le monde et forcément Isaac est obligé de prendre position. Le trio doit donner deux concerts au Festival d'Athènes en juin 67, quelques semaines après le coup d'état militaire. Ils y vont en se sentant piégés et manifestent aussi clairement que possible leur opposition au nouveau régime. De même, lorsque l'URSS soutient l'Égypte en 67 et rompt ses relations diplomatiques avec Israël, Isaac écrit aux organisateurs russes qu'il ne reviendra plus en Union soviétique. Et en 68, lors de l'invasion de Prague, il refuse d'y jouer par solidarité avec les Tchèques. À chaque fois, il précise qu'il s'agit d'une initiative personnelle. Peut-on imaginer la célébrité d'Isaac à la fin des années 60? Et pourtant, comme à ses débuts, il a le trac.
Toujours, c'est seulement les petits-enfants et les idiots qui n'ont pas le trac. Sans trac, on ne joue pas bien. Mais ça dépend combien de trac. Et puis comment on peut le contrôler? Vous savez, jouer en violence, jouer au concert, c'est mourir mille fois. Mais continuer à vivre.
Avant d'entrer en scène, il reste seul dans sa loge silencieuse. Il fait des respirations profondes et joue calmement un passage de l'œuvre qu'il va interpréter, voire la mélodie d'une toute autre œuvre. Cela lui procure une détente et réduit le stress. Il entre sur scène en traversant bien sûr les rangs très étroits des cordes, en tenant son violon en l'air, un truc piqué à son copain Piatigorsky pour protéger son instrument. Un geste qui donne une prestance, du panache. personne ne se doute qu'il commence à souffrir de douleurs articulaires aux mains. Eugène Istomine témoigne. Souvent, Isaac arrive mort d'épuisement au concert. Mais il aime jouer fatigué. Il se détend en faisant de la musique. Parfois, son intonation n'est pas bonne. Il prend des risques. Il gagne, il perd. Mais Isaac donne toujours au public quelque chose à chaque représentation. De l'autre côté du miroir, Isaac est une star internationale absolue. Il est adoré au Japon et s'intéresse tant à leur musique qu'il va enregistrer des mélodies traditionnelles.
Allô, monsieur Isaac Stern, Emmanuel Franc, France Musique, c'est l'été.
Les années 67, 68 et 69 ne sont pas les grandes années du trio, mais il leur suffit de se retrouver pour que les liens se reforment aussitôt. En 70, l'année du bicentenaire de la naissance de Beethoven, Istomine, Rose et Stern se fixent un défi que personne n'a jamais relevé. Donner l'intégrale de la musique de chambre avec piano de Beethoven au concert et au disque. Immédiatement, le projet suscite un immense enthousiasme. Les 365 jours de l'année Beethoven n'auraient pas suffi pour répondre à toutes les demandes de concert. L'aventure commence début mai à Minneapolis. Avant la fin du mois de juin, ils ont déjà effectué une tournée aux États-Unis, participé au festival de Porto Rico, passé 2 semaines à Buenos Aires et fait étape au Brésil. D'août à novembre, c'est le véritable marathon qui commence, en Israël et dans toute l'Europe. La tournée s'achève en décembre pour une dernière intégrale à Carnegie Hall, bien sûr. En l'espace de 7 mois, Istomine, Stern et Rose ont donné ensemble quelques 70 concerts, 31 œuvres réparties en 8 programmes, auxquels il faut ajouter bien évidemment toutes les répétitions et les multiples séances d'enregistrement pour le disque. Ils ont commencé tôt les enregistrements des trios et les achèvent avec l'opus 70 numéro 1, Les Esprits. En studio, nous étions de véritables démons de la perfection. Un enfer pour les producteurs et ingénieurs du son, chacun étant bien sûr extrêmement protecteur de son propre son. Nous savions exactement ce que nous voulions et ne voulions pas, dit Istomine. Autre activité chronophage, les médias. Les interviews s'enchaînent, que ce soit pour la radio ou la télévision. Histomine encore. La chose la plus étonnante, c'est la spontanéité avec laquelle nous opérons notre fusion, la fraîcheur de notre interprétation, quel que soit le nombre de fois où nous avons joué les œuvres ensemble. 7 mois de triomphe, certes, mais le pianiste ajoute que c'est aussi 7 mois à passer ensemble pour 3 égomaniaques fous furieux. De cette fabuleuse aventure, nous possédons le témoignage de John Trapp, tourneur de page et homme à tout faire du trio. Fin musicien, il se trouve que le jeune homme a tenu un journal intime. John Trapp. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont tous les trois besoin les uns des autres. Par exemple, Léonard Rose et Isaac ne pourraient pas remplacer Eugène, car il n'y a pas d'autre artiste qui puisse et qui veuille faire ce qu'il fait. Eugène et Léonard ont besoin de la popularité d'Isaac pour remplir les salles, ce qu'Isaac est le seul à pouvoir faire. Artistiquement, Eugène a tellement appris dans sa jeunesse avec Casals et avec Bush qu'il a énormément à offrir à Isaac, qui après un peu de réticence est plutôt prêt à l'accepter. Il a beaucoup aussi à apporter à Léonard, mais Léonard est lui aussi un professeur et par conséquent il n'accepte pas de recevoir des leçons. En tout cas, rien de ce qui les sépare aujourd'hui n'est aussi fort que ce qui les unit musicalement. Et humainement, pourrait-on ajouter. Thank you. Les chamailleries recommencent, attisées par l'épuisement dû au voyage, aux hôtels calamiteux, aux trains ou aux avions en retard, aux pianos impossibles, aux salles pitoyables. Il y a des partitions perdues, des fracs qu'on n'a plus le temps d'envoyer à la blanchisserie. À cela s'ajoutent 1000 difficultés qui vont des coups de blouse, parce qu'ils sont éloignés des leurs, des maux de dos, des rages de dents, des gueules de bois. Et pourtant, chaque soir, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parfois, Isaac cumule les exploits. À Londres, il découvre 5 minutes avant le début du concert qu'il a oublié ses partitions. Le programme est modifié en toute hâte. Eugène et Léonard commencent. Puis Stern casse une corde. D'un bond, il sort de scène, s'empare d'un autre violon, déjà accordé, et bondit à nouveau sur scène en 23 secondes pile. Léonard Rose, instable, pique de grosse colère et souvent paralysé par le trac. Quant à Eugène Estomine, sa tâche est évidemment la plus lourde. Il assure les 31 œuvres, alors que Rose se repose pendant les 10 sonates pour violon et Isaac pendant les 5 pour violoncelle. Estomine est tout le temps à la disposition de ses partenaires, qui en abusent. Or, le problème, c'est qu'Estomine ne mâche pas ses mots et a du mal à s'avouer vaincu dans une discussion. Le ton monte souvent. Les insultes fusent. Et pourtant, Isaac constate que si Eugène n'a jamais appris à s'excuser, cette tournée le met sur le bon chemin. Lors d'une interview, le trio affirme que ces disputes sont un bon terreau beethovenien. Estomine, encore et toujours, il parlait bien. C'est en vérité le conflit qui fait naître la musique et non l'unanimité. Isaac Stern renchérit maintenant. Il faut regarder les choses en face. Sur le plan artistique, si vous n'avez pas un point de vue profondément personnel, c'est comme si vous n'aviez pas de point de vue. Combien de fois la tournée a-t-elle été à deux doigts de s'arrêter ? Vraiment, les liens d'amour-haine peuvent surmonter de nombreuses ruptures, constate Trapp. Il note encore, cela avait pour conséquence de sublimer Eugène Estomine et de créer des moments de tension musicale exceptionnels. C'était particulièrement sensible dans certaines œuvres, comme les trios opus 70, la sonate pour violon opus 30 numéro 2 et surtout la Kreutzer. Trapp constate que le final devient davantage un duel qu'un duo. Trois hommes vivent intensément cette parenthèse beethovenienne dans leur vie de musicien. Vu de l'extérieur, ces tournées ressemblent à une route triomphale. John Trapp, toujours dans son journal, se fait l'écho des ovations reçues. Aucun trio ne s'est jamais produit à Buenos Aires. On imagine l'événement au Théâtre Colonne, à l'Acoustique Fabuleuse. À Londres aussi, on refuse du monde à chaque concert. Et plusieurs centaines de personnes se déplacent tout de même avec l'infime espoir d'un billet revendu. À Paris, Estomine et Stern sont obligés de donner un bis à la fin de la première partie d'un concert où ils jouent sublimement la sonate opus 96. La passion est telle que lorsqu'Isaac annonce sur scène qu'ils ne donneront pas la Kreutzer, le public crie et proteste vivement pendant plus d'une minute. Cela n'empêche pas ce même public d'applaudir à tout rompre à la fin du concert après un flamboyant trio opus 70 numéro 2. La critique est dite dithyrambique quasiment partout. Les médias se bousculent, les télévisions anglaises et françaises leur consacrent de longs portraits. Ils ont tant conscience de vivre une expérience unique que les moments heureux prennent le pas sur les tensions. Oui, il y a eu des sandwichs rassis avalés à la va-vite, des engueulades franches ou larvées. Mais il y a surtout eu des fêtes pantagruéliques avec des amis surgés de partout, des nuits écourtées après d'interminables discussions autour d'une bouteille de whisky. John Trapp note bien des fous rires lors de la tournée. En revanche, l'enregistrement des sonates de Beethoven a vraiment été source de tension. À l'automne 71, Histomine et Rose enregistrent deux sonates pour piano et violoncelle qui bizarrement seront publiées tardivement. Et Stern et Histomine gravent deux des sonates pour violon, puis le projet est interrompu jusqu'en 84. Que s'est-il passé? Ces pages de Beethoven tiennent à cœur à Isaac. Il n'a enregistré que la 7e sonate avec Zakine il y a déjà bien longtemps. Mais il sent que pour ses sonates, il lui faut un pianiste qui ait ses propres idées et qui le pousse à un dialogue sans concession. Seul Histomine a ce répondant. Seulement à la même époque, Histomine se fâche avec Columbia, la maison du disque, qui lui fait payer cher le fait de jouer de la musique de chambre et lui refuse l'enregistrement des concertos pour piano majeurs. Il accepte de signer les trios, mais refuse de poursuivre les sonates pour violon et pour violoncelle de Beethoven. C'est seulement en 84 qu'Isaac arrive à le convaincre. Tête de l'art, Histomine accepte, mais ne signe aucun contrat, ne prétend à aucune rémunération et ne demande aucun droit d'écoute. Stern et Histomine ont une tendresse particulière pour la première et pour la 10e sonate de Beethoven. Thank you. La publication du coffret de l'intégrale des trios a reçu de nombreuses distinctions. Isaac conclut. L'idée même de ce projet vaut tous les sacrifices d'ego. J'ai été exalté. Je me suis senti grandi, anobli, même si c'est un mot prétentieux par ses interprétations. Oui, nous avons dû faire des compromis. Mais quand vous jouez de la musique comme celle-là, en dernière analyse, vous la jouez pour vous-même. J'aurais pu passer 6 mois plus confortable, gagner plus d'argent et récolter plus de gloire personnelle, mais je ne le souhaitais pas. Le cycle Beethoven, c'était la confirmation d'une foi en la musique. Et c'est bien de la réaffirmer de temps en temps. En 72, le trio prend un peu de recul, mais jusqu'à la fin, tous les ans, chacun continue de donner quelques semaines au trio. En 73, il se lance dans une intégrale Brahms. Leur ultime enregistrement est réalisé les 19 et 20 juillet 79, le deuxième trio de Mendelssohn. Pour Istomin, c'était l'une des plus belles réussites de leur discographie. Le trio sera moins actif dès 80 lorsque Leonard Rose apprend qu'il est atteint d'une leucémie. Il meurt en 84. Stern suggère à Istomin de chercher un autre violoncelliste et de repartir pour une nouvelle aventure, mais celui-ci refuse et ne fera d'ailleurs plus de musique de chambre. Leur histoire était unique. Isaac, lui, va bientôt se tourner vers Yo-Yo Ma, élève de Leonard Rose, et vers deux pianistes qui ont étudié avec Eugène Istomin, Emmanuel Ax et Yefim Bronfman. Mais nous ne sommes pas encore là.
Allô, monsieur Isaac Stern, Emmanuel Franc. France Musique, c'est l'été.
En 71 à Londres, Isaac participe à l'enregistrement de la bande sonore du film Le violon sur le toit, une comédie musicale qu'il adore et qui se passe dans un chétal ukrainien du début du siècle. Dès qu'il veut souffler un peu, un projet passionnant arrive. Ses enfants sont adolescents et Isaac réalise qu'il n'a jamais été à une réunion de professeurs, à un match ou une représentation scolaire. Avril 71, Isaac écrit à son agent européen. Il veut réduire le nombre de concerts cet hiver-là. « Je dois vous le demander maintenant. Je n'ai pas l'intention d'invoquer une maladie imaginaire de dernière minute. Vous comprendrez que je n'ai pas pris cette décision à la légère. Elle a été le fruit de quelques jours de lutte. Le plus difficile a été de me voir sous mon vrai jour et de comprendre que ma vie, la musique, les concerts, tout cela continuera à se dérouler sans grand changement, que je joue un peu plus ou un peu moins, jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge adulte et commencent à forger leur propre vie. La véritable différence sera que je serai un homme plus heureux et donc un musicien plus heureux. » Isaac et sa famille passent l'été chez Jean-Pierre Rampal, en Corse. Des vacances de potes, comme il n'en a jamais vécu. Rampal est comme lui un dévoreur de musique et un bon cuisinier. Mais surtout, Isaac dit, il a fait de la flûte un instrument soliste du XXe siècle. Tous deux s'aiment et s'estiment.
C'est un vrai ami, Rampal, et... J'adore faire la musique avec lui, j'adore vivre avec lui, parce qu'il a une joie de vivre. C'est une explosion de joie, être avec lui, n'importe où, et nous jouons beaucoup ensemble.
La montagne, la mer, les parfums d'été, la pêche aux ormeaux, aux aurores, le pastis, et surtout, figurez-vous que pour téléphoner, Isaac doit aller à la poste du village à quelques kilomètres de chez lui.
Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein, un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà.
Alors cet été-là lui ouvre des horizons. Il se décide à écrire à une connaissance rencontrée lors d'un dîner à la Maison Blanche, Henry Kissinger. « Je vous écris de Corse, où je suis en vacances avec ma famille. Je voudrais vous demander si vous pourriez m'aider à réaliser un très vieux rêve, celui d'aller en Chine, et peut-être d'y jouer. Ce pays et ce peuple m'intriguent depuis de nombreuses années, mais en l'absence de relations diplomatiques, je me trouve dans l'impossibilité de présenter directement la moindre requête. »
Pour moi, la raison pour y aller, c'était parce que je voudrais voir moi-même comme un pays de 1 milliard, on trouvait le moyen de manger, d'avoir quelque chose à mettre sur le corps, pas grand chose, mais qui sont devenus un pays. Et c'était un miracle dans notre temps. Et je voulais le voir moi-même. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le niveau du talent des jeunes. Je me suis dit, certainement, c'est un pays qui va mettre une marque sur l'histoire de la musique dans les prochains 50 ans.
Oui, nous le savons, il va y aller, mais Kissinger commence par le décourager en lui disant que c'est très prématuré. Bon, C'est pas grave, Isaac a d'autres projets. Et celui qui lui tient le plus à cœur, c'est le Jerusalem Music Center.
Activiste pour la musique, toujours. Activiste pour aider les jeunes, toujours. Et la musique, c'est ma vie. Et après plus que 60 ans sur la scène, j'ai appris un peu. J'attends toujours écouter un musicien qui parle, qui veut me dire quelque chose, pas seulement jouer les notes.
Depuis longtemps, Isaac repère les talents en Israël. Au fil des ans, il lui vient une idée. Fonder un centre de musique pour y donner des masterclass. Le projet est modeste. Il loue un petit théâtre, le Khan. Il s'agit, comme à Prades, de faire se rencontrer des générations éloignées. Les jeunes apprendront en compagnie de Sacha Schneider, Claude Franck le pianiste, Eugène Istomin, Léonard Rose, Gina Bakauer, William Steinberg et Pablo Casals, bien sûr. Isaac souhaite un lieu de partage d'expériences, ouvert à tous et gratuit, une sorte de laboratoire informel. En fait, c'est une école pilote.
En expressivo, expressivo, expressivo.
Pablo Casals a 96 ans. Il vient diriger l'orchestre des jeunes. Il va donner quelques jours plus tard son dernier concert au Khan, puisqu'il mourra 3 mois plus tard. On entend ici, lors des répétitions, il est frais comme un gardon.
How wonderful it is. How wonderful, so simple, and how wonderful. He arrives to that. Hey, do that. Hey, do it. But you're not. There's nothing. Done, bam. I sing better than I conduct.
Un jeune homme se lance dans la sonate numéro 2 de Prokofiev.
First of all,
avant toute chose, j'ai l'impression que tu es un peu loin de ton violon. Je ne suis pas certain de savoir pourquoi. Tu vois,
you're sort of, if you're dancing with a girl, you know, that may be all right, but you know.
Si tu dansais avec une fille, ça pourrait se comprendre. Mais avec le violon, il faut que tu aies un rapport d'amitié, il faut que vous soyez proche.
And then you're moving around a lot. Usually when one moves that much, that means that you're trying to do something.
Et puis tu bouges beaucoup. Et quand quelqu'un bouge autant, cela signifie qu'il essaye de faire quelque chose musicalement. Et comme il n'y arrive pas, il fait tous ses mouvements avec son corps. Et puis j'entends ce genre de choses. Tu attaques une note, tu passes au vibrato, et puis tu arrêtes. Et pas seulement sur les notes courtes, mais aussi sur les longues. Mais ça a peut-être quelque chose à voir avec le caractère de cette pièce. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas jouée.
The most thing in Prokofiev is the quality of.
Voyons si je m'en souviens. Mais ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a dans Prokofiev, c'est une certaine capacité d'évocation, d'image et de couleur.
Dimanche 21 octobre, Tsahal, l'armée d'Israël attaque une tête de pont égyptienne en face d'Ismaïliers, dans le secteur nord du canal de Suez.
Isaac est à peine rentré à New York qu'il annule tous ses engagements et repart en Israël. C'est la guerre de Kippour en octobre 1973. Isaac Stern arrive à minuit à Tel Aviv, plongé dans l'obscurité à cause du couvre-feu. Difficile de se déplacer, les bus et les voitures sont réquisitionnés pour le transport militaire. Il donne des concerts, dont un inoubliable. Il se rend avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigé par Zubin Mehta, un ami d'Isaac et le nouveau directeur musical de l'orchestre, sur une grande base aérienne, à 3 minutes de vol du Golan. Tous s'installent dans une petite salle, sur une scène. « Nous avons commencé à jouer », raconte Isaac. « Bientôt, il y a eu 10 personnes dans la salle, puis 20, puis 70. Très vite, elle a été aux 3/4 pleine. J'ai vu des hommes entrer, rester un moment, puis repartir très calmement. J'ai ensuite découvert qu'il s'agissait de pilotes en état d'alerte. Une fois, tout un groupe de pilotes a quitté la salle d'un coup. Nous avons continué à jouer et quelques minutes plus tard, nous avons entendu le ronflement des avions en train de décoller. Nous étions toujours en train de jouer quand ils sont rentrés. Ils sont revenus dans la salle et se sont assis pour nous écouter. Il joue aussi dans les hôpitaux pour les grands brûlés. Isaac revient hanté par ce qu'il a vécu. Yehudi Menuhin, à propos d'Isaac, résume leur position commune. Lui et moi avons tous deux ce que l'on pourrait appeler un besoin missionnaire juif génétique. Pourquoi écouter cette œuvre de Penderevski, infiniment triste? Parce qu'en 73 meurent ses amis, Oistrakh et Casals. Mais le deuil le plus difficile à faire en 74, c'est quand Saul Urok s'en va à son tour. Souvenez-vous du film qui racontait sa vie. Le brillant et célébrissime agent s'en va comme au cinéma. Une crise cardiaque à l'arrière d'une limousine qui le conduisait à une réunion dont le but était d'organiser une tournée pour Nouriev. Saul Urok était son fidèle agent depuis 1939. Son ami, il se téléphonait tout le temps, se voyait tout le temps. Leur relation était la loyauté incarnée. Isaac, j'ai joué à son service funèbre à Carnegie Hall et ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. J'ai perdu un second père. Isaac Stern n'a jamais joué les concertos de Schoenberg. Il n'y arrivait pas.
J'ai essayé, je l'ai étudié. Bernstein m'a demandé de faire avec lui. Et j'ai commencé à travailler. Et finalement, je ne peux pas trouver dans moi-même que je pourrais croire dans la musique. Et si je peux croire, je ne peux pas le jouer. Et il m'a dit, mais c'est seulement Schumann avec des fausses notes. Mais j'ai dit, c'est des fausses notes qui me troublent.
En revanche, en 75 et en 77, Isaac va créer 2 concertos contemporains, celui de Rochberg et celui de Penderevski. Du dernier, Isaac affirme qu'il est merveilleusement évocateur pour l'orchestre et pour le violon et que c'est l'une des compositions majeures du XXe siècle.
Dans 2 cas, le concerto de Penderecki et le concerto de George Rochberg, ils m'ont envoyé page par page, toujours en retard, et j'ai commencé à lire, à étudier et travailler. Et dans les 2 cas, les derniers mouvements étaient pas grand-chose. Je savais pas pourquoi. J'ai téléphoné à Penderecki, à New Haven, à l'université de Yale, où il était professeur dans ce temps-là. J'ai dit, Christophe, j'ai reçu le dernier mouvement. Voulez-vous venir le discuter avec moi? Il m'a répondu, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai dit, c'est mieux si vous venez. Mais pourquoi? Finalement, il a dit oui. Il est venu. Je lui ai dit, vous avez écrit un concerto énorme avec beaucoup d'idées, beaucoup d'éclats, beaucoup de personnalité, mais enfin, à la fin, vous commencez de moquer soi-même. Pourquoi? Il a dit, vous ne l'aimez pas, hein? J'ai dit, non, je ne l'aime pas. Il a dit, mais c'est la cinquième version que j'étais rendu. J'ai dit, tu ne veux pas essayer une sixième? Il a dit, ok. Il est allé, moi je suis parti pour des concerts, je me rappelle, à Rotterdam. Et tout d'un coup, au lieu de dernier page, j'ai reçu trois pages avec quelques millions de notes dans toutes directions, mais avec toute une beauté. Et je lui ai téléphoné immédiatement, j'ai dit, Christophe, c'est merveilleux, c'est difficile, je ferai le mieux possible parce que le concert c'est dans une semaine. Mais de qui penses-tu quand tu l'as écrit? Il me répondit, ah, tu sens quelque chose, hein? J'ai dit oui. Alors il dit, mon père est mort récemment et j'ai pensé de lui quand j'avais écrit la fin.
Le concerto pour violon de Rosberg est construit comme une ligne de violon ininterrompue. Décidément pas facile à interpréter, un gros travail pour Isaac. Je me souviens avec quelle frénésie j'ai appris ce concerto. J'ai travaillé 10 à 12 heures par jour. Le fait est que j'admirais cette œuvre et que j'étais fier de la présenter au monde.
La même chose est arrivée. La fin du mouvement final. C'était la même chose comme le corps du concerto avant. Et je lui ai parlé, ils ont discuté, il a dit, ouais, ben, essayez une autre fois. Et quand il m'a envoyé le dernier essai, je lui ai téléphoné, c'est de toute beauté, mais tu penses à quelqu'un. Il m'a dit, comment tu le sais? Je le sens. Il dit, ouais, j'ai perdu une fille à l'âge de 20 ans. Et j'ai pensé à lui. Curieux, non?
Isaac n'a jamais failli à ses responsabilités de président de Carnegie Hall. La salle va avoir besoin d'une très sérieuse rénovation et pour son fonctionnement, il faut la doter d'un fonds. Pour rassembler le plus possible d'argent, il faut faire un coup médiatique à l'occasion de son 85e anniversaire. Isaac fait ce qu'il sait si bien faire, mais cette fois, il ne s'agit pas juste de réunir les énergies, mais de rassembler les plus grands musiciens du monde. Bernstein, Dietrich Fischer-Dieskau, Menuhin, Rostropovitch. Il s'appuie sur Vera, sa femme, pour préparer le gala du siècle, afin de réunir le plus de grands donateurs possible. Le principe de ce concert est que tous les musiciens se prêtent à un programme de musique de chambre. Le fragile Horowitz, qui n'a pas joué en trio depuis 30 ans et qui souhaite toute la lumière sur lui comme d'habitude, rechigne un peu. Mais la répétition se passe très bien et Horowitz joue avec beaucoup de fierté au concert. Écoutez plutôt.
Thank you.
Mais le grand moment qui nous intéresse ce soir-là à ce que l'on a appelé le concert du siècle, c'est l'œuvre dirigée par Leonard Bernstein, le pacificateur en chef de tous les dangers. Les deux violonistes sont Isaac Stern et Yehudi Menuhin. Menuhin qui résume bien la relation des deux violonistes, fondée non sur l'amitié, loin de là, mais sur l'estime. Son jeu a de la chaleur, de la musicalité, du bon goût, de la discipline et de la spontanéité. Il n'y a pas de conscience de soi. C'est tout d'un morceau. Il n'y a rien que je n'aime pas à ce sujet. Si je ne le fais pas de la même manière, c'est parce que nous sommes faits différemment. Isaac, qui ne s'autorise en aucun cas le moindre commentaire négatif sur qui que ce soit, n'a jamais parlé de Yehudi Menuhin, mais ce soir-là, tous deux se sont parlé grâce à Bach. En 1977, Isaac Stern est à nouveau confronté à un deuil impossible. Le pianiste Shurazakin s'en va à son tour. Isaac pleure. « Mon compagnon d'armes depuis 33 ans est tombé gravement malade. Je ne l'aurais pas laissé partir avant qu'il me dise « Je ne peux pas, je ne peux plus ». Dès que nous avons cessé de jouer ensemble, atteint de la maladie d'Alzheimer, il a décliné très rapidement. J'ai cherché pendant quelque temps un partenaire qui soit à la fois un interprète et un voyageur pour remplacer Zakin. Dès que David Goloub s'est assis au piano dans mon studio, il n'est sorti que de la musique pure. Son corps s'exprimait avec aisance et ne faisait qu'un avec la musique qu'il jouait. Son attitude physique au piano et la façon dont la musique sortait de ses mains étaient très naturelles. Je l'ai engagé sur le champ. Et Isaac, en 79, l'embarque dans une folle aventure, la découverte de la Chine.
Avant de descendre de l'avion, assurez-vous d'emporter tous vos effets personnels avec vous. Merci et bonne soirée.
Isaac part avec sa famille, plus une équipe de tournage dirigée par le formidable réalisateur Murray Lerner. Le producteur est encore plus incroyable. Wally Schauer est en fait un homme d'affaires qui a tout simplement envie de filmer l'aventure et d'y participer. Alors, il finance le film. Quand on vous dit qu'Isaac a le talent de réunir des énergies. Le 18 juin 79, Isaac Stern est magnifique. Il a les cheveux longs, il porte des lunettes de soleil, arbore un air joyeux, gourmand. Avec lui, sa femme, ses enfants, Goloub et l'équipe du film de Mao à Mozart, ils arrivent tous à Pékin.
We're here to meet the people as much as to play, you know. It is less a concert tour than a how do you do. It's more a how do you do, you know. Using music as a sort of passport.
La musique est un passeport, dites-vous. Ok, Isaac. Elle est votre passeport pour le monde. Mais lorsque je vous vois la descente de l'avion arriver en Chine, votre violon à la main, je sais que vous poursuivez votre chemin. Je devrais dire votre destin. Un ogre de curiosité, un géant de générosité dont le bonheur le plus pur est de découvrir des talents et de jouer ensemble pour mieux se parler. Demain, s'il vous plaît Isaac, emmenez-nous dans votre folle aventure, enfin l'une de vos dernières folles aventures. Rendez-vous donc demain pour notre ultime émission, la 8e de Allô Monsieur Isaac Stern. Cette émission était réalisée par Christine Amado. J'ai été assistée par Françoise Monteil et le mixage est signé par Jean-Michel Bernou. On se retrouve demain à 11h. Je vous souhaite une belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.